Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Talquier, avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois Patrick Vivray, pour évoquer la question de la spiritualité en temps de crise économique. Patrick Vivray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie, vous avez été chargé sous le gouvernement Jospin d'une mission visant à redéfinir les indicateurs de richesse. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Reconsidérer la richesse » aux éditions de l'Aube et « Pourquoi ça ne va pas plus mal » chez Fayard. Et votre dernier ouvrage, publié il y a quelque temps avec notre ami Edgar Morin, que nous allons d'ailleurs recevoir ici dans un mois aux Racines du Ciel, « Comment vivre en temps de crise ?» Alors c'est la question, d'abord je me permets de commencer l'année en souhaitant une très belle année à tous, ici présents et puis tous nos auditeurs qui nous écoutent. Et puis on démarre une année difficile, puisqu'on nous annonce la fin du monde en 2012, selon les prophéties mayas, et on est en pleine crise économique. Alors c'est justement l'occasion de montrer, parce que vous êtes plutôt un optimiste, de montrer comment on peut avoir un autre regard sur la crise qui n'est pas un regard défaitiste, un regard qui consiste simplement à aligner tous les problèmes en se disant ben, on croule sous la mondialisation, on n'y peut plus rien, on est dans un système désespérant. C'est vrai, vous faites cette analyse et en même temps vous montrez que voilà, il faut croire en des solutions et d'une certaine manière essayer de mettre en œuvre le meilleur pour qu'on essayer autant qu'on le peut de faire évoluer les choses. Mais alors avant de venir aux solutions, je voudrais quand même qu'on parte un petit peu du constat. Dans tout ce que nous vivons là depuis quelques années, avec ces successions de crises financières qui n'en finissent pas, qu'est-ce qui vous apparaît être le diagnostic le plus important ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous semble être au cœur de toutes ces catastrophes successives et de ce système qui a un peu l'air de s'effondrer sous nos yeux ?
Mais ce qui rend la crise systémique, c'est qu'est-ce qui est commun à la partie financière, mais aussi écologique, sociale ou plus généralement politique de la crise, c'est le phénomène de la démesure, ce que les Grecs appelaient l'hubris. Dans nos rapports à la nature, la démesure, ça se traduit par le fait, par exemple, que des ressources fossiles accumulées pendant des millions d'années, comme le pétrole, sont exploitées et gaspillées en quelques générations. Ce sont les atteintes majeures à la diversité, c'est le dérèglement du climat avec les phénomènes extrêmes que ça produit. Dans le domaine social, la démesure, c'est le creusement des inégalités qui produit par exemple le fait que sur l'échelle planétaire, la fortune personnelle de 225 personnes, c'est pas beaucoup 225 personnes, est égale au revenu cumulé de 2,5 milliards d'êtres humains. La première fortune mondiale représente 55 millions de fois le seuil de pauvreté mondial. La première fortune française, c'est 23 millions de fois. Donc ça, c'est aussi de la démesure. Et puis sur le plan financier, la démesure, elle est exprimée par ce chiffre terrible donné par un des anciens responsables d'une banque centrale, Bernard Liétard, à savoir que sur les transactions financières quotidiennes, moins de 3%, 2,7% exactement, correspondent à des biens et des services réels. Le reste, les 97%, c'est la logique spéculative. Donc ça, c'est aussi de la démesure. Et comme la démesure, elle est elle-même en lien avec du mal-être et du mal de vivre, sur un plan personnel, on sait bien qu'une personne qui est boulimique, toxicomane, alcoolique, c'est que ça va pas bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que lors d'un rapport mondial sur le développement humain, le programme des Nations Unies pour le développement avait mis en rapport le lien avec les questions du mal de vivre, en montrant que les sommes qui étaient nécessaires pour traiter les besoins vitaux de l'humanité, la faim, les soins de base, le logement, l'accès à l'eau potable, représentaient moins de 10 fois, par exemple, les sommes qui étaient dépensées chaque année sur la drogue et les stupéfiants. Or, l'économie de la drogue et les stupéfiants, c'est directement une économie de gestion du mal-être. L'économie de l'armement, c'était 20 fois. Ces sommes, qu'est-ce qu'on gère avec de l'armement? Pour l'essentiel, de la maltraitance, de la peur et de la domination. Et le troisième exemple qu'ils prenaient, c'était la publicité. Chaque année, on dépense 10 fois plus en publicité que ce qu'on fait sur la faim, l'eau potable, les soins de base et le logement. Or, pour l'essentiel, la publicité, c'est une forme de gestion consolatrice de notre mal-être. C'est-à-dire que plus nous sommes dans la destruction de la nature et plus la publicité met en scène la beauté, plus nous sommes dans la rivalité, le stress, la course, et plus la publicité met en scène la paix, l'amour, l'amitié, plus nous sommes dans l'absence de vie intérieure, et plus elle
on va
met
voir
en
des,
scène...
Des voilà. gens qui méditent, bon. Voilà.
Et donc, la publicité est une formidable dérivation du désir pour nous donner ce que des philosophes appelleraient une promesse dans l'ordre du développement de l'être, mais pour mieux nous faire consommer dans l'avoir. Mmh. Ben, si on met en rapport ce couple démesure et mal de vivre, qui est au cœur aussi bien de la crise financière, écologique, sociale, etc., on va comprendre aussi que positivement, le couple positif, c'est celui que, par exemple, Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, c'est-à-dire à la fois l'acceptation des limites d'un côté et puis une qualité de vie supérieure de l'autre.
On va y venir, parce que là, on est déjà dans des solutions, dans des réponses possibles à ça. Moi, je voudrais revenir un petit peu encore sur le constat des grandes mutations et des grandes peurs et des grandes crises que nous vivons. Derrière tout ce que vous dites à travers l'idée de démesure, on voit bien qu'il y a quand même, vous l'avez cité, cette polarité être et avoir, on voit bien que c'est une démesure dans l'ordre de l'avoir. C'est-à-dire que derrière tout ça, on est dans une logique matérialiste et une logique de profit. C'est un peu aussi le dieu de l'argent qui mène le monde aujourd'hui, à tous les niveaux, qui fait qu'on détruit la planète pour des raisons économiques, de profit.
Tout à fait. Et c'est une longue histoire, parce que c'est à la fois la dénonciation du veau d'or dans la tradition biblique, mais c'est aussi la dénonciation d'Aristote à Athènes dans sa distinction entre l'économie et ce qu'il appelait la crématistique. Et la crématistique, c'était quand l'économie dérapait parce qu'elle prenait l'argent comme une fin au lieu d'être un simple moyen. On peut dire que les grandes crises financières actuelles sont des crises crématistiques. Mmh. Donc c'est toujours ce même point commun et qui finit par détruire la substance même de toute société et de toute civilisation. C'est la raison pour laquelle on est vraiment rentré dans une phase critique où il n'est pas faux de dire que l'humanité peut se perdre, mais c'est toujours la double face comme l'idéogramme chinois du mot crise. On est aussi dans une situation qui peut lui permettre un saut qualitatif dans sa propre humanisation.
Et alors, autre point encore, je reste dans le négatif exprès, hein. Vous m'amenez toujours vers du positif, mais c'est la deuxième partie de l'émission. D'accord. Je voudrais qu'on diagnostique bien les choses. Oui. Autre élément, c'est que cette idéologie du profit, de l'avoir, cette vision matérialiste, elle s'est développée en Occident et elle est en train de se mondialiser. C'est-à-dire qu'au fond, un des autres aspects du problème, c'est finalement la mondialisation sur le modèle occidental.
Oui, mais...
Et qui détruit des sociétés traditionnelles un peu partout.
Pardonnez-moi de réintroduire aussi des éléments positifs tout de suite, y compris sur ce terrain-là, parce que il y a une double face. Il y a cette mondialisation qui, en réalité, n'est pas une véritable mondialité, parce qu'elle ne traite que de la globalisation financière et elle se moque éternellement des vrais problèmes mondiaux que sont les problèmes écologiques, les problèmes sociaux, les problèmes des armes de destruction massive, etc. Mais l'autre mondialisation, celle que Édouard Glissant appelle la mondialité, ce que le courant altermondialiste porte, elle porte au contraire un autre projet qui a été exprimé notamment lors des forums sociaux mondiaux en Amazonie brésilienne à Belém, qui est le projet de société du bien-vivre. Et ces projets de société du bien-vivre, ils se nourrissent tout autant de ce qu'il y a de meilleur dans la modernité, qu'est l'émancipation, mais de ce qu'il y a de meilleur dans les sociétés de tradition, qu'est la reliance, hein, le rapport au lien social, le rapport au sens et le rapport à la nature.
Mais aujourd'hui, on voit bien que les sociétés traditionnelles sont très atteintes par, je dirais tout simplement, la domination culturelle, les liens économiques très étroits. Il suffit qu'une bourse craque dans un pays du Nord pour qu'en Afrique il y ait une famine. Enfin, cette interconnexion qui est économique, évidemment, déstructure complètement des sociétés. Et je me demande si un certain nombre de réactions religieuses, identitaires, voire un petit peu fanatiques parfois, ne vient pas aussi de cette peur d'être aspiré par un certain nombre de cultures dans un modèle économique et culturel sous, je dirais, la domination occidentale. Ça s'est fait comme ça historiquement, qui fait très peur et que ça suscite des réactions identitaires. On se replie souvent sur la religion, sur ce qui est effectivement le vecteur identitaire d'un peuple, pour ne pas être aspiré dans ça. Et là-dessus, même si ça porte beaucoup de problèmes et de dangers, on peut comprendre aussi ces réactions, ces phénomènes réactionnels à cette mondialisation, dans ce qu'elle n'a pas toujours de positif.
Ah ben, tout à fait. Simplement, dans ce cas-là, au lieu d'avoir l'alchimie positive que j'évoquais entre le meilleur de la modernité comme émancipation et le meilleur des sociétés de tradition comme reliance, on a le pire des deux. On a la chosification et la domination du côté de la modernité, et on a le fondamentalisme et le phénomène identitaire du côté des sociétés de tradition. Et l'humanité est clairement menacée, de ce point de vue-là, par de nouvelles guerres du sens, parce que quand on est dans une situation où le cocktail explosif de l'humiliation et de la misère fait de l'humanité une pétaudière, ben évidemment, ces guerres du sens peuvent se reproduire. Mais raison de plus pour se tourner du côté des formes créatrices.
Oui, positives. Alors je sens que je ne peux pas aller plus loin dans le diagnostic négatif.
Si vous voulez, je peux me permettre
de
rajouter...
Non, c'était pour poser les choses comme elles sont, et puis après on voit comment on peut en sortir.
Il y a quand même un élément, à mon avis, qu'il faut rajouter, c'est que une bonne partie de la crise financière actuelle, elle est provoquée. Il faut bien voir, c'était Kofi Annan qui, avant de quitter ses fonctions de secrétaire général des Nations Unies, avait fait une remarque très importante qui était la suivante. Avant 2008, les questions essentielles du débat international étaient structurées d'un côté par le problème écologique, dérèglement du climat, Kyoto, préparation de Copenhague, de l'autre côté par les objectifs du millénaire des Nations Unies. La caractéristique commune de ces deux grands dossiers, c'est qu'on parlait de régulation, de planification à moyen et à long terme, de réduction des inégalités,
oui, des règles internationales.
Et ce que disait Kofi Annan, et qui s'est tout à fait vérifié, c'est que la crise financière, elle est en grande partie provoquée par tous les partisans de la dérégulation qui avait été imposée depuis 35 ans par la révolution conservatrice anglo-saxonne et qui était directement menacée par le fait que le dossier écologique et le dossier social devenaient les priorités mondiale. Et de fait, depuis la crise financière, on a complètement oublié
cette
question.
C'est vrai qu'on n'en parle plus, ça
paraît
secondaire.
On est avec le sommet Durban actuellement, on n'en parle pas, alors même qu'on est en train de nous dire que l'objectif de limitation à 2 degrés centigrades est devenu inatteignable. Ça devrait être l'objet d'un scandale et d'une interrogation mondiale. Pas du tout, ça passe à la trappe.
Ce que vous dites est tout à fait vrai, mais en même temps, on a du mal à croire qu'il y a une sorte de complot dans lequel, effectivement, un certain nombre d'ultralibéraux sont arrangés pour qu'il y ait une telle crise financière, alors qu'on voit bien qu'il y a le problème de l'endettement des États. On faisait quand même tous comme si on pouvait vivre au-dessus de nos moyens, et aujourd'hui, ça nous revient à la figure. On voit bien que la faillite des subprimes aux États-Unis, etc., ça a été provoqué par des mécanismes tout simplement qui faisaient que la réalité n'était plus tenable. Comme vous le disiez tout à l'heure, la réalité de la spéculation financière ne correspondait plus à l'économie réelle. C'est ça qui a fait basculer...
Oui, tout à fait. Mais on veut nous faire croire que, par exemple, les endettements viendraient, par exemple, des problèmes de protection sociale des États, alors que ça n'est pas du tout le cas. L'essentiel de la dette financière, c'est une dette sociale inversée. J'ai été pendant assez longtemps à la Cour des comptes. On avait travaillé, par exemple, sur les 100 milliards d'exonérations qui avaient été réalisées en 10 ans en France. Ben, ces 100 milliards, c'était un double bénéfice pour les catégories aisées. Ils payaient moins d'impôts, moins de cotisations sociales. Et avec ce revenu supplémentaire, ils pouvaient se permettre de prêter, y compris de prêter aux États et de recevoir le bénéfice de l'intérêt. Pour les populations modestes, c'était le contraire, c'était une double peine. Ils recevaient moins de services publics ou de transferts sociaux et ils sont priés maintenant, soit comme citoyens, soit comme contribuables, de payer pour les conséquences de la crise. Quand on regarde depuis 1982, le passage des revenus qui étaient au travail vers le capital, ça représente 35 000 milliards de dollars. Donc la dette dite financière est pour l'essentiel une dette sociale inversée. Ce qu'on devrait aux catégories les plus modestes, on a créé un mécanisme tel qu'on les doit aux catégories les plus riches. Et aujourd'hui, par exemple, les paradis fiscaux, ils continuent de plus belle. Nous avons un président de la République qui a prétendu que la question était derrière nous. Les paradis fiscaux ont doublé de volume depuis la dernière déclaration de Nicolas Sarkozy. Donc, c'est là qu'il y a un véritable scandale. Et ce problème, il est en partie lié au mécanisme inconscient, vous avez raison, là il n'y a pas besoin de complot, hein. Il suffit simplement de chercher le profit à n'importe quel prix, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui jouent un rôle clairement cynique dans l'affaire. Pour donner un exemple simple, la banque Goldman Sachs, elle est aujourd'hui devant les tribunaux parce que sur les subprimes, dans le même temps où elle vendait des subprimes, elle spéculait sur la faillite probable des propriétaires. Et d'ailleurs, entre eux, ils appelaient les subprimes la bombe à neutrons. Pourquoi ? Parce que ça détruit la personne, ça laisse intact le matériel. Et sur la Grèce, c'est pareil. Goldman Sachs a aidé la Grèce à maquiller les comptes, à s'endetter et en même temps à commencer à spéculer sur la faillite de la Grèce via les produits dérivés d'assurance. Aux États-Unis, ils sont devant les tribunaux. Ce qui est dramatique, c'est qu'en Europe, ils sont au pouvoir. Le nouveau président de la Banque Centrale Européenne est de Goldman Sachs. Le nouveau président du Conseil italien est de Goldman Sachs. Et ça, c'est un problème gravissime parce que c'est l'équivalent de ce qu'on peut appeler un coup d'État silencieux qui met en cause la démocratie.
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel en compagnie aujourd'hui de Patrick Vivray. Et nous parlons de la spiritualité en temps de crise économique. Alors la spiritualité, c'est écouter la passion, par exemple, selon saint Matthieu de Bach. Hein, et ça, ça continue de réjouir l'âme, quelles que soient les difficultés du monde dans lequel nous vivons. Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour. Alors, je voudrais justement revenir sur cet aspect de spiritualité que vous venez d'évoquer. À savoir que, si je vous ai bien lu et si je vous ai bien entendu, quand vous faites le diagnostic de la crise et que vous dites... Évidemment, ce qui porte la crise, les crises en général, puisqu'effectivement c'était déjà comme ça dans l'Antiquité, c'est la démesure et le mal de vivre. Vous pointez donc une question fondamentalement éthique qui est liée à la sagesse la plus ancienne, c'est-à-dire que finalement tous les sages, tous les philosophes, tous les spirituels qui ont essayé de penser les crises successives qui ont secoué l'humanité tombent d'accord pour dire précisément que c'est l'absence de sagesse qui amène ces difficultés et la crise. Et donc, en réalité, la démesure et le mal de vivre sont les exacts opposés de ce qu'on appelle communément la sagesse. Et ça, c'est lié évidemment aux questions éthiques. Et vous évoquez, en même temps qu'Edgar Morin d'ailleurs, dans ce petit livre, « Comment vivre en temps de crise », l'importance du pari éthique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la compréhension de cette crise et éventuellement sa résolution d'une réflexion sur la responsabilité éthique de chacun, si tant est que je vous ai bien lu. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que, au fondement de tous ces problèmes qui sont liés à la question de comment je peux devenir plus sage, il y a le questionnement éthique ?
Tout à fait, tout à fait. Ça permet de faire aussi le lien avec la question économique, parce que le grand bouleversement de l'économie dans sa forme moderne, ça a été sa prétention à s'abstraire de la question éthique, de la question politique, certes, mais aussi de la question éthique. Et c'est exprimé par la définition fameuse de l'utilité économique, par le traité de l'économie politique pure de Walras, qui dit exactement ceci: l'utilité économique du poison recherché par l'assassin peut être aussi utile, voire plus utile, que celle du médicament recherché par le médecin. Donc on est exactement dans une exonération de l'économique de tout discernement éthique. Il suffit que un acteur quelconque soit prêt à mettre sur un marché un prix plus important qu'un autre. Si c'est l'assassin, eh bien l'utilité économique du poison va être supérieure.
On l'a vu avec la course aux armements, où là, effectivement, on a mis des sommes colossales dans les progrès des armements.
Et c'est aussi ce qui est exprimé dans la comptabilité, c'est-à-dire le changement fondamental de la comptabilité. La comptabilité nous vient d'une approche théologique. C'était la comptabilité du salut, à une époque d'économie du salut, où, par exemple, bénéfice, ça voulait dire bienfait. Et le contraire des bienfaits, c'était les péchés méfaits. Là, on a une comptabilité qui prétend qu'il suffit qu'il y ait un flux monétaire pour que ça soit compté positivement, même si ce flux monétaire est généré par un accident, une pollution, une catastrophe. Et donc, comme l'avait dit Amartya Sen, l'un des prix Nobel d'économie hétérodoxe, il faut réencastrer l'économie dans l'éthique. Elle ne peut plus prétendre s'autonomiser radicalement de l'éthique.
Alors c'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Il y a de plus en plus de politiques qui tiennent aussi ce discours. On le voit dans la campagne présidentielle française. La question des règles à imposer à la finance est centrale. Et donc, lorsqu'on recapitalise les banques, en échange, est-ce qu'il ne faut pas poser des règles, leur imposer des limites, etc. Donc, cette question-là, aujourd'hui, je dirais, les politiques s'en sont emparées parce que l'opinion publique, on a un peu ras-le-bol. Et on sent bien qu'il y a un retournement de l'opinion publique qui s'est fait en quelques années, où maintenant, on n'est plus du tout dans la recherche du profit à tout prix, mais on se dit qu'il faut absolument qu'il y ait une bien meilleure contrôle de toute cette économie qui partait totalement, je dirais, dans une destruction des société sans qu'il y ait une intervention politique. Et on sent bien que la recherche de règles, d'éthique, de morale revient en force.
Tout à fait, tout à fait. Avec un élément supplémentaire sur les marchés financiers, c'est que la question, elle est à la fois éthique et, j'ajouterais, sanitaire. Vous savez, le Wall Street Journal, dans un éclair de lucidité, avait écrit un jour dans un éditorial, Wall Street, mais ça vaut pour toutes les bourses mondiales, ne connaît que deux sentiments, l'euphorie ou la panique. C'est exactement la définition de la psychose maniaco-dépressive. Et quand on a un cas de psychose maniaco-dépressive, je connais bien le problème, j'ai eu à m'en occuper, ça crée une telle distance par rapport à la réalité, y compris la réalité économique, que c'est une des raisons pour lesquelles on préconise une curatelle ou une tutelle. Le problème des marchés financiers, c'est aujourd'hui aussi un problème sanitaire mondial.
Quand vous dites qu'il faut réguler et que l'éthique est dans la régulation, je ne suis pas certaine que vous alliez tout à fait dans ce sens. J'ai quand même l'impression que votre pensée est un peu plus radicale. Il ne s'agit pas de réguler, mais peut-être de changer de système. J'entends pas par là une révolution dans le sens historique du terme, mais vous préconisez beaucoup plus qu'une régulation. C'est-à-dire que vous pensez vraiment qu'il faut radicalement changer de rapport de l'homme à la société et de la société à l'homme.
Tout à fait, tout à fait. La régulation est une des conséquences de cette transformation qui doit effectivement viser la racine du problème et ce couple des mesures mal de vivre.
Sinon, on ne traite que le symptôme.
Oui, oui, c'est déjà c'est quand même un progrès, l'idée qu'il faut réguler la finance. Maintenant, effectivement, vous posez la question fondamentale de mode de vie, de réorganiser complètement. Vous parliez de Pierre Rabhi tout à l'heure, je vous ai un peu coupé, mais c'est le moment d'en parler. Donc vous dites qu'il faut vivre autrement.
Oui, 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 parce que non seulement il faut traiter le problème de la démesure, donc ça c'est la question de l'acceptation des limites, on peut appeler ça frugalité, sobriété ou satiété, parce que arrêter d'être au-delà de ce qui est suffisant. Mais si on se contente de traiter le problème de la démesure sans traiter la cause, qui est le mal-être, le mal de vivre, la maltraitance. Ben, si je prends l'exemple d'un toxicomane, si vous lui proposez une cure de sevrage, mais si vous ne lui donnez pas l'espérance d'un mieux-être, il restera encore avec sa toxicomanie. Donc il faut aller aussi construire des stratégies du côté du bien-vivre, du côté du développement dans l'ordre de l'être. Et là, ça rejoint aussi le fait de considérer que les traditions de sagesse deviennent essentielles dans notre propre nourriture de changement sociétal. Ce n'est pas simplement des enjeux personnels, ça devient effectivement des enjeux collectifs.
C'est-à-dire que les deux sont liés finalement, c'est la question qu'on se pose toujours. Est-ce qu'il faut d'abord réformer la société ou est-ce qu'il faut d'abord se réformer soi-même? Bon, donc vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut faire les deux en même temps parce qu'il y a une cohérence entre une transformation individuelle et une transformation collective.
Tout à fait, et je ne suis pas le seul à le dire puisque d'une façon très significative, c'est à Porto Alegre, lors d'un forum social mondial, donc a priori qui est plutôt dans une culture de la transformation structurelle, où a été lancé ce qu'on a appelé l'axe TPTS, et TPTS ça veut dire transformation personnelle et transformation sociale, qui doivent s'épauler mutuellement et pas contradictoirement.
Oui, alors c'est dans ce sens que je vous ai apporté un texte, un texte de Karl Marx. Dois-je m'en excuser? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un texte que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il fait écho à votre réflexion sur le rapport entre l'individu et la société. Et ce qui sous-tend ce petit passage extrait de la Sainte Famille de Marx, c'est l'idée que En réalité, il faudrait peut-être changer de paradigme dans le sens où les sociétés en général imposent à l'homme de se conformer aux exigences de la société, alors qu'en réalité, c'est à la société de se conformer aux exigences d'humanité. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte, c'est que chacun développe son humanité, ce que vous dites aussi dans ce petit ouvrage. Donc, la société doit créer les conditions qui permettent à chacun de développer sa propre humanité. Quand on étudie les doctrines matérialistes de la bonté originelle et des dons intellectuels égaux des hommes, de la toute-puissance de l'expérience, de l'habitude, de l'éducation, de l'influence des circonstances extérieures sur l'homme, de la grande importance de l'industrie, de la légitimité de la jouissance, etc., il n'est pas besoin d'une grande sagacité pour découvrir les liens qui le rattachent nécessairement au communisme et au socialisme. Si l'homme tire toute connaissance, sensation, etc. du monde sensible et de l'expérience au sein de ce monde, ce qui importe donc, c'est d'organiser le monde empirique de telle façon que l'homme y fasse l'expérience et y prenne l'habitude de ce qui est véritablement humain, qu'il y fasse l'expérience de sa qualité d'homme. Si l'intérêt bien compris est le principe de toute morale, ce qui importe, c'est que l'intérêt privé de l'homme se confonde avec l'intérêt humain. Si l'homme n'est pas libre au sens matérialiste, c'est-à-dire s'il est libre non par la force négative d'éviter telle ou telle chose, mais par la force positive de faire valoir sa vraie individualité, il ne faut pas châtier le crime dans l'individu, mais détruire les foyers antisociaux du crime et donner à chacun l'espace social nécessaire à la manifestation essentielle de son être. Si l'homme est formé par les circonstances, il faut former les circonstances humainement.
Mais ce texte de Marx, il est très, très riche et très intéressant, mais il permet a posteriori de mieux voir aussi le point aveugle de Marx et des traditions marxistes, et qui renvoie à ce que j'évoquais sur l'axe transformation personnelle et transformation sociale, c'est-à-dire cette question très forte que pose Marx sur la question de la qualité d'homme. Mais on ne monte en qualité d'humanité, c'est l'un des objectifs du projet international qui s'appelle Dialogue en humanité, on ne monte en qualité d'humanité que si on est à la fois du côté de la transformation des conditions sociales, ce qu'évoque Marx dans ce texte, mais aussi du côté du travail sur soi et des conditions personnelles. Parce que par exemple, les processus de captation, de domination, de prédation, si vous ne bougez qu'en partie, vous pouvez être lucide sur la captation de richesses, mais aveugle, ça a été le drame des courants marxistes, sur la captation de pouvoir ou sur la captation de sens. Et à ce moment-là, ça donne le problème des fondamentalismes et des intégristes. Donc on doit travailler simultanément sur les deux terrains.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, vous citez aussi beaucoup Gandhi, en fait, et ce qui m'a toujours beaucoup touchée dans ce qu'il dit, c'est précisément ce point que vous évoquez, à savoir que même son action politique, il ne la concevait pas sans que ce soit un travail intérieur, personnel. À la limite, il pensait qu'il fallait avant tout qu'il se change lui-même avant de changer le monde. Alors, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Peut-être que c'est le seul homme politique qui a réussi à faire ce qu'il a fait parce que précisément, il l'a d'abord fait sur lui-même. C'est pourquoi je vous ai aussi apporté un extrait de Tous les hommes sont frères, qui sont une suite en fait de textes, des textes que Gandhi a dit dans différentes circonstances, écrits ou dit oralement. Et voici donc ce qu'il dit. Alors ça se termine effectivement sur ce que nous disions des religions, c'est-à-dire la religion elle-même doit venir en aide à cette réalisation personnelle, sociale, politique, et non pas devenir un foyer de fanatisme et d'opposition. Et peut-être que ça permettra aussi que vous nous disiez un mot sur la dérive possible, justement, quand on veut changer le mal chez les autres, au lieu de le changer d'abord en soi-même. Je ne suis qu'un pauvre combattant dont l'âme aspire au bien parfait, à la vérité complète et à une non-violence sans défaillance, non seulement dans mes actes et mes paroles, mais aussi dans mes pensées. Jusqu'ici pourtant, je n'ai pas atteint cet idéal dont le bien fondé ne fait pour moi aucun doute. L'ascension est pénible, mais je prends plaisir à affronter les difficultés du parcours. Chaque pas de plus me rend plus fort et plus apte à faire le suivant. Dieu n'est ni au ciel ni aux enfers, mais en chacun de nous. C'est donc en me consacrant au service de l'humanité que je pourrai un jour voir Dieu. En fait, la religion devrait marquer chacune de nos actions. Il ne faut voir là aucun sectarisme, mais la croyance que l'univers est gouverné par des règles morales. Qu'on ne puisse pas le voir de ses yeux n'enlève rien à leur réalité. Cette religion-là transcende l'hindouisme, l'islam, le christianisme, elle ne les remplace pas, elle les harmonise et leur confère la réalité qui les caractérise.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour.
quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel et nous poursuivons cette conversation avec Patrick Vivray sur la question de la spiritualité en temps de crise. Alors la spiritualité, c'est l'amour aussi, bien sûr, hein, comme le rappelle Jacques Brel. Mais je voudrais revenir sur ces deux textes qui ont été lus par Lélie Anvard, entre Marx qui nous dit, bon ben voilà, pour améliorer l'humanité, changeons les structures sociales et puis réformons la société, l'économie et le monde sera meilleur. Et puis Gandhi qui nous dit, il faut se changer soi-même. Au fond, je le disais tout à l'heure, vous tenez un petit peu un équilibre entre ces deux dimensions.
Oui, mais d'une certaine façon...
Vous êtes plus proche de Gandhi quand même.
Oui, mais Gandhi a fait la démonstration de ce que j'appelais l'axe transformation personnelle et transformation sociale.
Parce qu'il s'est impliqué dans un engagement...
Dieu sait si l'indépendance de l'Inde a été un formidable engagement collectif.
Peut-être parce qu'il reposait sur la force de son témoignage aussi.
Oui, tout à fait. Et là, on rejoint aussi justement la chanson de Brel, c'est-à-dire l'amour comme puissance créatrice est une énergie absolument extraordinaire. Et la puissance sous forme dominatrice, elle se termine toujours par la mort, alors que l'amour a une puissance créatrice qui peut être supérieure à la mort. Et ça, c'est le point commun des traditions de sagesse, mais y compris des sagesses qui sont à ce moment-là des sagesses jubilatoires. Je dirais que c'est une sagesse érotique, c'est-à-dire qui est liée à de la force de vie.
Et Paul Ricoeur, je vous interromps, parce que sur ce point-là, disait une phrase très belle. Il disait « il faut libérer les forces de bonté qu'il y a dans le cœur de l'homme ». Mais comment les libérer ?
Mais c'est là que la question de la joie de vivre est une question fondamentale, et pas simplement sur le plan personnel, mais sur le plan collectif. Dans un mouvement international qu'on a créé qui s'appelle Dialogue en Humanité, on travaille beaucoup sur l'entraide à la joie de vivre, précisément parce que dans le socle de réponse aux démesures et mal de vivre, la joie de vivre est la seule garantie qu'on ne va pas remplacer une domination, une captation par une autre. Parce que quand nous sommes heureux, non seulement on n'a pas envie d'empêcher que les autres le soient, mais on a au contraire le désir qu'ils le soient. Et comme tous les systèmes de domination sont des systèmes fondés sur la maltraitance, choisir d'être heureux, on peut dire, c'est déjà un acte de résistance politique. Et ça m'amène, c'est un autre point très important chez Gandhi, c'est que la non-violence, ça n'est pas le refus du conflit. On peut même dire l'inverse. Il faut construire du conflit comme alternative à la violence. C'est quand un conflit n'a pas été construit suffisamment tôt qu'il dégénère en violence. Par exemple, le problème des émeutes urbaines. Aujourd'hui, c'est essentiel que, par exemple, grâce au mouvement des indignés dans le monde entier, il y ait un conflit qui soit construit face à la logique des marchés
financiers. Oui, c'est une
financiers.
Résistance, en fait. C'est, d'opposer
c'est une résistance,
résistance
mais
à logiques mortifères.
C'est une résistance créative. Hein. Mmh. Par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, on appelle ça le trépied du rêve. C'est le R de la résistance, mais de la résistance créative. Le V de la vision transformatrice, un autre monde est possible. Et sans attendre de l'expérimentation anticipatrice, c'est-à-dire on va le plus loin possible avec tous les acteurs qui sont prêts dans des transformations qui associent la dimension personnelle et la dimension collective.
Alors justement, concrètement, comment vous faites pour installer ces idées libératrices? Comment vous êtes entré dans cet engagement qui est quand même quotidien, qui est concret, en particulier avec la création de ce dialogue en humanité que vous avez évoqué, mais dont vous allez peut-être nous expliquer comment il a été créé, ce qu'il est et ce qu'il fait?
Alors, d'abord, ça a été créé dans le contexte du sommet de la Terre de Johannesburg et des dialogues pour la Terre qui avaient été initiés par Mikhail Gorbatchev à l'époque. Et j'avais participé, c'était le moment où je faisais aussi la mission richesse pour le gouvernement. J'étais frappé du fait qu'on faisait des dialogues, des sommets pour la Terre, ce qui était très bien, mais que tous les problèmes que l'humanité rencontrait, y compris les problèmes écologiques, étaient au fond des dégâts collatéraux de la difficulté qu'avait l'humanité à vivre sa propre condition. Et ça, ça n'était jamais considéré comme une question politique et comme une question politique internationale. Et donc le projet des dialogues en humanité, c'est de dire il nous faut affronter la difficulté de la question humaine. Quelle est l'humanité qu'il faut remettre au centre, la question de la qualité d'humanité que posait Marx dans ce texte. Et là, on retrouve des conditions qui sont à la fois personnelles et collectives, ce qu'on appelait les écosystèmes émotionnels, qui fait que dans certaines situations, on va aller plutôt vers le pire de l'inhumanité que vers le meilleur de l'humanité. Et du coup, dans les dialogues en humanité, qui ont commencé en France, mais maintenant vous en avez au Brésil, à Bahia, vous en avez en Inde, à Bangalore, là, qui vont se tenir en février, vous en avez à Berlin, on a beaucoup travaillé la forme. Par exemple, à chaque fois, ça se passe sous les arbres. Ce n'est pas du tout la même qualité de rencontre et de débat quand on se retrouve sous les arbres que quand on est dans une salle de congrès. Deuxièmement, avant les débats plus classiques, dans ces agoras sous les arbres, on a ce qu'on appelle des ateliers du sensible, de façon à permettre l'élévation de l'intelligence sensible, corps et cœur, au même niveau que l'intelligence mentale. Et puis la troisième caractéristique, c'est qu'on considère que les éléments de différence et de divergence sont une chance et non pas une menace. Et donc on applique une méthode qu'on appelle la construction des désaccords. Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, ce qui est toxique, ça n'est jamais le désaccord, c'est le malentendu, le soupçon, le procès d'intention. Donc vous voyez, ces éléments, ils jouent beaucoup sur la forme, que ce soit le lieu même sous les arbres, que ce soit les ateliers du sensible, que ce soit les modalités de construction de désaccords, mais ça change la donne. Ensuite, dans la façon même dont on va travailler sur les grands débats de l'humanité actuelle.
Alors, un des éléments quand même très spécifiques de notre époque, c'est qu'on a une communauté de destin. Puisque avant, chaque peuple pouvait avoir effectivement vivre un génocide, on ne savait même pas, vivre une catastrophe, on s'en fichait. Là, aujourd'hui, on est tous dans le même bateau. Et Edgar Morin utilise cette expression très belle de terre-patrie. Ça, ça crée quelque chose de très tout à fait nouveau et qui est peut-être une chance. C'est qu'on se sent relié les uns aux autres par la nécessité de faire quelque chose pour que le monde survive.
Oui,
c'est
même la grande innovation de l'époque actuelle. Parce qu'on peut dire que depuis que l'humanité a pris conscience de son humanité, il y a un certain nombre de questions permanentes et transversales. C'est la raison pour laquelle les traditions de sagesse nous aident. Mais là, avec la mondialité elle-même, nous sommes dans une situation où l'humanité s'est constituée en communauté de destin. Et on peut dire qu'elle s'est d'abord constituée comme sujet négatif de sa propre histoire, sous la forme terrible avec Hiroshima de la prise de conscience qu'elle commençait à avoir la possibilité de s'autodétruire. Et la grande affaire du 21e siècle, et j'espère au-delà, c'est que l'humanité se constitue cette fois en sujet positif de sa propre histoire. Et à ce moment-là, tous ces éléments qui sont des éléments de rendez-vous critique de l'humanité avec elle-même et qui font qu'elle risque la sortie de route peuvent aussi être des éléments qui peuvent permettre un saut qualitatif dans la voie de sa propre humanisation. Vous citiez Edgar Morin, et il évoque souvent ce parallèle entre l'hominisation sur le plan biologique et l'humanisation qui est la grande affaire politique et culturelle. Et là, il y a un potentiel du point de vue de l'humanité qui est considérable, mais à condition, là on retrouve aussi la chanson de Jacques Brel, c'est que cette humanité qui, notamment grâce à la société de la connaissance, aux technologies de communication, est devenue de plus en plus un réseau pensant, que ce réseau pensant apprenne un peu plus à être un réseau confiant et j'ajouterais même un réseau aimant. Parce que la grande difficulté de l'humanité, c'est d'apprendre à mieux s'aimer elle-même.
Alors la question qu'on se pose aussi, c'est qu'on est dans un monde, on a l'impression qu'on ne maîtrise plus rien. C'est-à-dire qu'on se dit aujourd'hui, même si vous et moi, on a envie de changer le monde, que peut-on faire par rapport à... On a l'impression que les choses se sont emballées et que plus personne n'a de maîtrise sur l'avancée technologique, économique, etc. de l'humanité. Les problèmes sont tellement complexes. On parlait d'Edgar Morin qui a bien montré la complexité dans laquelle nous vivons. Et on se dit, mais peut-on avoir prise sur ce bateau ivre qui avance un peu comme le Titanic et au milieu des icebergs? Donc, est-ce que vous croyez qu'on peut avoir prise sur cette complexité du monde qui est partie à la dérive?
Alors, c'est important de ne pas confondre la complexité et la complication. Parce que la complexité, c'est un tissage et les choses ne sont pas forcément compliquées. Par contre, la complication est souvent un outil de domination. Par exemple, sur les marchés financiers, le jargon est un moyen de construire de la domination par l'opacité. Au moment du procès Kerviel, la direction de la Société Générale avait donné comme consigne à tous ceux qui étaient en contact avec les policiers ou avec les juges, d'être le plus jargonneux possible. Donc, il y a une complexité comme un tissage interactif, mais il y a des éléments de compréhension qui sont parfaitement possibles et qui font que cette complexité peut être une chance, et notamment quand on diagnostique ces grands défis de l'humanité dans son rapport à elle-même et dans son rapport à la nature, et qui se résume au fond à une question relativement simple, et on retrouve là la question des traditions de sagesse, c'est qu'il faut sortir des logiques guerrières. Parce que la guerre que nous faisons par exemple à la nature, la question écologique, elle est en rapport étroit à la guerre que nous faisons à autrui, les logiques de rivalité, mais cette guerre à autrui, elle est directement liée au fait que nous sommes en guerre avec nous-mêmes.
Oui, mais alors là, on en revient à la sagesse personnelle.
Mais, oui, mais les deux, justement, c'est ça
la conscience,
la grande différence, c'est que les questions de la sagesse ne sont plus simplement des questions personnelles, ce sont devenues des questions politiques. Quand la grande mutation du politique lui-même, c'est que traditionnellement, le politique a construit des phénomènes de pacification et de civilisation à l'intérieur d'espaces, tribus, cités, états, empires, mais tournés contre la peur de l'étranger, de l'infidèle ou du barbare. Quand on est à l'échelle planétaire, il n'y a pas d'extraterrestre, autrement que sur un mode fantasmatique, qui nous menace. Nous sommes menacés, mais par de la barbarie intérieure. Et donc, pour construire de la véritable mondialité, y compris une gouvernance mondiale qui est une base démocratique, il faut s'inspirer beaucoup plus des textes de la sagesse que des textes de la géopolitique ou de l'économie de guerre.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique ? Parce que c'est vrai qu'ici, nous sommes d'accord absolument que cette sagesse est nécessaire. Mais est-ce que véritablement...
Mais pas à Wall Street.
Exactement, les gens qui sont à Wall Street, les gens qui nous gouvernent, même les gens qui sont aux commandes dans les institutions internationales, que ce soit l'ONU ou d'autres, est-ce qu'on peut les convaincre un instant de tourner leur regard vers eux-mêmes et vers ces sagesses qui nous apprennent à vivre. Le problème, c'est que ça me paraît parfaitement utopique. Comment atteindre ceux qui décident ?
Ce qui est en train de se passer, c'est que c'est l'effondrement de leur propre monde qui est en train de se produire. On n'a pas à les convaincre, c'est-à-dire le monde qu'ils ont construit est un monde qui est devenu insoutenable. Alors c'était vrai sur le plan de l'insoutenabilité écologique, on le voyait, c'est vrai sur le plan de l'insoutenabilité sociale. Le fait nouveau, c'est que le terrain même où ils avaient construit leur puissance, qui était celui de la globalisation financière, c'est sur ce terrain-là que l'effondrement est aujourd'hui le plus fondamental. Donc la grande question, c'est comment éviter que la fin de leur monde génère une fin du monde, pour le coup, général, parce que les effets de catastrophe, etc. C'est une toute petite fraction de la population mondiale. Les indignés ont raison de dire qu'à la fin des fins, il y a 1% de la population mondiale qui est bénéficiaire de ces sommes faramineuses. Ça s'est traduit par le fait que les inégalités parmi les plus riches sont devenues tellement importantes que maintenant on a été obligé de faire des distinctions au sein des 1% les plus riches et qu'on distingue les 0,1% et les 0,01% des ultra-riches.
Ces gens-là n'ont pas du tout intérêt à ce que ça change.
Et oui.
Mais bien sûr qu'ils n'ont pas du tout intérêt. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, et ça c'est une vraie posture réaliste, il faut créer du conflit.
Oui, donc un climat insurrectionnel positif, quoi, d'une certaine
c'est
manière.
C'est ce que Stéphane Hessel appelle l'insurrection pacifique. Mmh. Hein, nous sommes dans une situation où, par exemple, il y a un conflit mondial à assumer entre les logiques financières d'un côté et les logiques de démocratie et de paix de l'autre. Parce que si on laisse faire les logiques financières, les programmes d'austérité qui vont avec et l'absence de réponse aux questions écologiques, on va effectivement vers des chaos absolument dramatique. Donc le vrai réalisme, il est au contraire du côté de la résistance créatrice.
Faites des forums dans différentes villes
oui,
du monde.
Oui, l'idée, c'est que on a besoin. Il y a un mouvement mondial des droits civiques hein, qui est aujourd'hui à l'œuvre. On peut dire que Gandhi et Martin Luther King, il faut reprendre leur approche, mais dans une approche mondiale. Donc, ça vaut aussi bien sur les mouvements démocratiques dans les pays arabes que pour Occupy Wall Street ou pour les indignés espagnols. Et on a besoin justement que cette résistance devienne aussi une source d'espérance. Si on veut qu'elle soit créatrice, elle a besoin aussi de s'enraciner dans une vision transformatrice positive.
Alors on retrouvera sur notre site internet des Racines du Ciel une mention de vos propres sites internet qui renvoient donc à ces différents forums, colloques, manifestations que vous organisez. Et ben merci beaucoup.
Merci.
Cette émission s'écoute en ligne pendant 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. La semaine prochaine, le féminin et la pudeur dans le judaïsme.